marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine à l'une des figures les plus fascinantes de l'Afrique contemporaine. Considéré comme un héros national au Sénégal pour avoir été le premier député africain à porter le combat pour l'égalité des Noirs, Blaise Diagne incarne tout autant l'empire colonial français. En effet, c'est lui que Georges Clemenceau a choisi pendant la Première Guerre mondiale pour procéder au plus grand recrutement des tirailleurs de l'histoire.
Blaise Diagne disait : je suis l'incarnation du Sénégal. Je suis noir. Ma femme est blanche. Et mes enfants sont métis. Et le Sénégal, ce sont ces trois composantes-là. Par conséquent, en m'élisant, vous élisez le Sénégal des profondeurs.
Et il a réussi à se faire élire en 1914 député au Parlement français. C'est une véritable révolution. Blaise Diagne, une légende franco-africaine. C'est un documentaire proposé par RFI en partenariat avec les Archives nationales françaises. Ce premier épisode nous entraîne sur les traces de Blaise Diagne au Sénégal, jusqu'à Saint-Louis dans le Nord, porte de la colonisation, mais aussi à Touba, ville de la confrérie des Mourides. Mais tout d'abord, c'est dans la capitale, Dakar, que je suis reçue par le professeur Ibader Thiam. Il est l'auteur d'une biographie de Blaise Diagne et le coordinateur de l'histoire générale du Sénégal. Nous discutons longuement au milieu des piles de livres qui tapissent entièrement sa maison. Ibader Thiam répond à mes questions. Comment cerner Blaise Diagne, cet homme politique aux multiples facettes ?
Blaise Diagne va tenir dans l'histoire générale du Sénégal incontestablement une place particulièrement importante. Encore qu'il faudra évidemment qu'on s'entende sur le Blaise Diagne qui sera considéré par les Sénégalais comme étant l'incarnation de leurs valeurs. Est-ce le Blaise Diagne ancien fonctionnaire de l'administration coloniale? Est-ce le Blaise Diagne homme politique qui a su organiser, galvaniser, mobiliser pour que désormais le mandat parlementaire au Sénégal et les pouvoirs politiques soient surtout exercés par des hommes tels que les Noirs? Est-ce le Blaise Diagne qui, pendant la guerre, s'est battu aux côtés des tirailleurs sénégalais et qui, au lendemain de la guerre, a été considéré comme un héros? Est-ce le Blaise Diagne qui a participé en 1918 au dernier recrutement à partir duquel la France a pu quand même remporter la victoire définitive? Le Blaise Diagne combattu par le Parti communiste français, combattu par les mouvements pan-noirs, etc., etc. Blaise Diagne a joué un rôle de héros parce que ce qu'il a fait en 1914 et qu'il a obtenu en 1914 représentait une épreuve particulièrement importante. Depuis 1914, plus jamais le mandat parlementaire au Sénégal n'a été exercé par quelqu'un qui n'était pas noir. Il a donc marqué une rupture avec le passé.
Cette rupture, Ibader Thiam la qualifie de révolution de 1914 au Sénégal. C'est le titre de son livre consacré à l'élection du député noir au Palais Bourbon. Car avant Blaise Diagne, le pouvoir est aux mains des populations blanches et métisses. Elles tiennent le devant de la scène à Saint-Louis du Sénégal, porte d'entrée de la colonisation et alors capitale de l'Afrique occidentale française. Mais qui est Blaise Diagne ? Il est né le 13 octobre 1872 à Gorée. Galaï Mbaye Diagne est baptisé Blaise par les frères de l'instruction chrétienne installés alors sur l'île de Gorée. Blaise est le fils de Niania Anthony Préra. Elle est servante et pileuse de mil, mais il est adopté par Adolphe Crespin, membre de l'élite métisse de Saint-Louis. Blaise a donc le privilège d'avoir accès à l'éducation et il va réussir le concours de fonctionnaire. C'est l'opportunité pour lui de voyager et de découvrir l'Empire français et ses vieilles colonies. Il est tout jeune, il a tout juste 20 ans lorsqu'il quitte le Sénégal pour devenir commis des douanes au Dahomey, au Congo ou à La Réunion. Mais comment va-t-il entrer en politique ?
Déjà, depuis son séjour au niveau de La Réunion, Blaise Diagne avait intégré la loge maçonnique de cette colonie, comme il a intégré celle de Madagascar. C'est incontestablement l'évêque qui l'a encouragé à aller dans le sens du projet qu'il était en train de former.
Donc cela veut dire, professeur, que Pierre Lévêque, qui est donc gouverneur de la Guyane, favorise l'entrée en politique de Blaise Diagne. Ils sont francs-maçons tous les deux, oui. Et l'évêque croit au potentiel politique
peut-être,
de Diagne.
Peut-être aussi sa femme, parce qu'il fréquentait les milieux des députés antillais et guyanais, et sa femme avait pu peut-être lui dire « ces gens-là ne sont pas meilleurs que toi ». Tu les vois toujours venir à la maison, on discute et tu vois toujours à quel point tu as de l'autorité, de l'intelligence, de la capacité. S'ils sont capables d'être députés, toi aussi tu es capable d'être député. Et quand tu seras député, tu seras respecté, tu ne seras plus maltraité. Mes enfants et moi, nous serons beaucoup plus en sécurité. Par conséquent, il faut que tu tentes ta chance. Blaise, en ce moment-là, a commencé à se dire, mais pourquoi je ne tenterai pas ma chance ? Quand il revient au Sénégal, Blaise Diagne prend contact avec la communauté Lébou. Et il discute avec les Lébou et leur fait savoir qu'il souhaiterait se porter candidat et qu'il en avait la compétence et l'expérience. Mieux, qu'en comparant le Sénégal aux colonies qu'il avait eu l'occasion de visiter, il se rend compte que le Sénégal était en retard en ce qui concerne les infrastructures, en ce qui concerne les écoles, en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne le statut des populations, etc. Et que lui entendait régler ces questions. Et les Lébou, immédiatement reconnaissant un de leurs fils comme étant capable d'exercer le mandat parlementaire, lui ont donné leur adhésion. Et les Lébou ont décidé de se rendre à Saint-Louis pour demander à la population de Saint-Louis de faire de même qu'eux. Il y avait également un parti, le parti Jeune Sénégal, dans la tradition des partis jeunes tunisiens, le parti Jeune Turc, le parti Jeune Égyptien, qui déjà avait des positions sur les injustices contre le système colonial et qui étaient en train de réfléchir. Mais eux-mêmes n'avaient pas encore trouvé de candidat et eux-mêmes ne croyaient pas en la victoire possible d'un candidat noir parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux-mêmes. Et puis ensuite, parmi eux-mêmes, s'il y avait un noir que l'on devrait chercher comme candidat, certains pensaient que ça devrait être Ngalou Diouf parce que lui était déjà sur la brèche depuis longtemps, mais Ngalou Diouf appartenait à l'establishment local, c'est-à-dire cette génération d'intellectuels sénégalais qui considéraient que malgré leurs valeurs, ils étaient plus ou moins inférieurs aux métis et aux blancs. Et ils doutaient de leur propre capacité. Qu'ils aient réussi au Conseil général, c'était incontestable. Qu'ils y fassent des discours d'une facture exceptionnelle qui leur avait donné beaucoup d'aura et beaucoup de prestige est incontestable. Mais ils imaginaient que le mandat parlementaire était quelque chose de différent. Ça leur rappelait Valdegrosse, ça leur rappelait Valdegrosso, ça leur rappelait Gambetta, ça leur rappelait Lamartine, ça leur rappelait Victor Hugo. Ils se disaient, cette assemblée-là, elle est tellement capitale, elle est tellement importante, elle est de niveau tellement élevé que nous n'avons pas la possibilité d'y accéder.
Est-ce que cela veut dire que Galandou Diouf lui-même est le plus grand supporter de Blaise Diagne ?
Oui, Galandou Diouf sera le plus grand supporter de Blaise Diagne parce que quand Blaise Diagne va arriver par bateau, avant son arrivée, il a écrit à Galandou pour lui dire qu'il est arrivé et Galandou fait partie de ceux qui l'ont accueilli. Il l'accueille au port de Dakar. Et quand il s'installe, il le met en contact avec la communauté Lébou, il va également le devancer à Saint-Louis pour préparer son arrivée à Saint-Louis et établir les contacts entre lui et la population de Saint-Louis.
Donc Galandou Diouf, c'est vraiment son supporter, c'est son fidèle second.
Galandou Diouf est son supporter et son second, et c'est lui qui va mobiliser le parti Jeune Sénégal pour que le parti Jeune Sénégal mette l'ensemble de ses forces au service de Blaise Diagne. Le vin d'honneur qu'ils ont organisé à la rue Paul Hall pour que Blaise puisse rencontrer la jeunesse saint-louisienne a été fait avec Galandou. Le meeting qu'ils ont organisé au Minbar de Saint-Louis, à l'occasion duquel il va développer son programme, révéler ses dons d'orateur et ses dons de débatteur, n'est-ce pas, sera également fait avec Galandou. Et toute la bataille politique qui va être engagée sera engagée avec Galandou.
En 1914, Blaise Diagne a 32 ans. Il se distingue par sa bonne éducation, son expérience outre-mer et sa connaissance de Paris. À la différence d'un Galandou Diouf, cultivateur ancré dans son terroir. Les deux hommes partagent le même rêve d'égalité, mais Galandou s'efface devant Blaise. Il ne joue pas dans la même cour. Blaise est d'ailleurs surveillé par les autorités coloniales, car partout où il se trouve, il se pose en émancipateur de la race noire, selon la terminologie de l'époque. N'oublions pas que Blaise est né dans l'une des quatre communes du Sénégal et que sa naissance lui donne accès au droit de vote et lui permet de se présenter aux élections. Ce n'est pas le cas de l'immense majorité des habitants de l'Afrique occidentale française. Ils sont soumis au code de l'indigénat et au travail forcé.
La population sénégalaise en 1914 était une population très bigarrée. Il faut dire que nous sommes à une époque où nos votes pour l'élection en fonction de députés que les ressortissants des quatre communes du Sénégal. Saint-Louis et Gorée, qui ont été communes de plein exercice en 1872, Rufisque, qui a été commune de plein exercice en 1880, et Dakar, qui a été commune de plein exercice en 1887. Le reste de la population, composé de paysans, appartient à ce qu'on appelle les territoires de protectorat. Cela, ils n'ont pas les droits des citoyens et ne participent pas à l'exercice du suffrage universel.
Les Sénégalais des protectorats sont-ils majoritairement des paysans ?
Ils sont majoritairement des paysans. Et eux-mêmes croyaient que Blaise Diagne venait pour les libérer. Dans les comptes rendus qui seront faits au lendemain des élections, on y verra que les chefs de canton ainsi que les administrateurs, les commandants de cercle, disaient que ces populations considéraient Blaise Diagne comme étant leur libérateur.
Professeur Ibadertiam, est-ce que Blaise Diagne a utilisé, dans sa campagne, qui lui a permis de devenir député, le premier député africain du Sénégal colonisé, de l'AOF colonisé, est-ce qu'il a utilisé l'argument de la race ?
À la vérité, il a utilisé l'argument de la race, mais il l'a fait avec beaucoup d'habileté. C'est-à-dire que Blaise Diagne disait « Je suis l'incarnation du Sénégal. Je suis noir. Ma femme est blanche. Et mes enfants sont métis. » Et le Sénégal, ce sont ces trois composantes-là. Par conséquent, en m'élisant, vous élisez le Sénégal des profondeurs. Et cela a porté. Mais chaque fois qu'il se trouvait devant un électorat noir, il ne cessait de leur dire « Les métis vous exploitent. Les blancs vous exploitent. Ils vous humilient. Ils ne vous respectent pas. » Ils ont mis le Sénégal dans une situation d'arriération, si vous comparez le Sénégal aux Antilles, si vous comparez le Sénégal à la Réunion, etc., etc. Donc, ils jouaient la carte de la race, mais sans le faire paraître. Et cela aussi a été déterminant dans sa stratégie.
Vous êtes à l'écoute de La Marche du Monde sur RFI. Nous sommes sur les traces de Blaise Diagne, premier député africain élu au Parlement français. Le jeune fonctionnaire des douanes est entré en politique lors de son retour au Sénégal en janvier 1914. Il rejoint alors la capitale de l'Afrique occidentale française, Saint-Louis. Je me demande quelles sont ses relations avec les métis de Saint-Louis, puisqu'à l'époque, ce sont eux qui tiennent la mairie et le maire s'appelle Justin Devez.
Je m'appelle Madeleine Devez-Senghor et je suis la petite fille de Justin Devez qui a été maire de Saint-Louis et l'arrière-petite-fille de Gaspard Devez, son père qui a été maire de Saint-Louis aussi.
Je suis au Sénégal sur les traces de Blaise Diagne et avec vous ici à Saint-Louis, Madeleine Devez, nous sommes au milieu de vos archives personnelles et une lettre est revenue à votre mémoire, une lettre que vous aviez peut-être jamais aussi bien lu.
Oui, effectivement, Malérie. Je suis retombée sur une lettre très importante que Blaise Diagne a écrite à Justin Devez, donc mon grand-père, sur une question d'histoire importante. Et c'est extraordinaire, c'est une lettre qui a plus de 100 ans. Elle est encore lisible, malgré quelques petites tâches du temps, d'ailleurs. Et donc, nous avons pu la déchiffrer et j'ai le plaisir de vous la relire. Donc, Paris, 25 juin 1912, lettre de Blaise Diagne à mon grand-père Justin Devez. Mon cher compatriote, il y a à peine 3 mois que j'arrive de la Guyane où j'étais en service, qu'une coïncidence heureuse m'a mis sous les yeux un organe parisien qui se préoccupe des futures élections législatives au Sénégal et de moi-même. La fantaisie de l'information, me visant en même temps que vous d'ailleurs, m'a mis dans l'obligation de demander une rectification qui remet les choses au point. Je m'empresse de vous adresser les numéros en question. Ma rectification tend à détruire cette opinion que les électeurs sénégalais sont de nature vénale à l'encontre de leur propre dignité. Cette malheureuse opinion que des forces de réaction en France même essaient de faire prévaloir contre la représentation coloniale au Parlement ne saurait d'ailleurs s'appliquer à nos compatriotes qui, de tous les coloniaux, et je viens de voir d'observer les Antilles et la Guyane notamment, sont encore les seuls qui offrent de réelles ressources en énergie et en dignité. Serais-je candidat? Ne le serais-je pas? La question ne se pose pas pour le moment. J'ai entendu simplement réagir contre une manœuvre anonyme de nature à nous porter préjudice à tous. Je ne me suis décidé à cette rectification qu'après avoir consulté certains de mes amis du Parlement, radicaux et radicaux-socialistes, qui auraient même voulu que j'affirmasse ma future candidature à ce propos. Je n'ai pas entièrement suivi le conseil pour ne point laisser croire que je disposais de votre approbation avant la lettre et en admettant que vous ne soyez pas opposé à la candidature d'un noir comme le prétend votre frère François. En me rappelant à votre aimable souvenir, je vous prie d'agréer, mon cher compatriote, l'assurance de mes sentiments dévoués et sincères. Signé Blaise Diagne.
Alors c'est la première fois, j'ai l'impression, Madeleine Devez, que vraiment vous lisez avec attention ce document. Qu'est-ce qui vous frappe tout de suite?
Bon, ce qui frappe tout de suite, c'est cette revendication du respect, de la dignité. Blaise Diagne n'accepte pas qu'on mette en doute la vénalité des électeurs sénégalais.
Donc il dit les voix des électeurs sénégalais, les Sénégalais votent dans les quatre communes ici au Sénégal, ne sont pas à vendre.
Ne sont pas à vendre, exactement. Ne sont pas à vendre du tout.
Madeleine Devez, cette archive personnelle dont vous donnez la primeur à RFI, et je vous en remercie, cette lettre que Blaise Diagne écrit en 1912 à votre grand-père, Justin Devez, qu'est-ce qu'elle vous apprend, qu'est-ce qu'elle nous apprend sur les relations entre les deux hommes? Donc Blaise Diagne, de la communauté noire, Justin Devez, de la communauté métisse, Justin Devez étant à l'époque maire de Saint-Louis.
Oui, ça prouve qu'en fait, Justin Devez occupait aussi, était respecté comme maire à Saint-Louis, et Blaise Diagne aussi entretenait des bonnes relations, d'excellentes relations avec lui, et il s'interroge encore, serais-je candidat, ne le serais-je pas? Il se pose la question, et en tout état de cause, Blaise Diagne ne prendra sa décision définitive d'être candidat que après avoir obtenu le feu vert de Justin Devez. Mais le métissage a été tel à Saint-Louis, les changements de couleur d'un père à son fils ou à ses petits-fils, moi je me pose encore la question aujourd'hui de savoir si c'était si important qu'on le dit. Ils se connaissent depuis longtemps, ils sont tous les deux dans des positions de pouvoir dans lesquelles l'un est dans la métropole, l'autre est dans le pays. Ils se sont surtout des Sénégalais, tous les deux. Et donc, quelque part, à ce niveau de responsabilité et avec de tels enjeux, ils ne peuvent pas. Il faut qu'ils s'entendent, il faut qu'ils collaborent, il faut qu'ils échangent leurs idées, qu'ils se consultent mutuellement. C'est un bel exemple d'harmonie politique, si on veut dire, entre deux hommes d'État qui, conscients de leurs responsabilités, conscients des répercussions des décisions qu'ils prennent, se consultent pour le bien général.
Blaise Diagne, une légende franco-africaine. C'est un documentaire proposé par RFI en partenariat avec les Archives nationales et c'est à suivre sur la Radio Mondiale.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
C'est la suite de La Marche du Monde sur RFI. Nous sommes au Sénégal, sur les traces de Blaise Diagne, le premier député africain, élu au Parlement français en 1914.
Blaise Diagne est une figure historique, un symbole de l'émancipation politique des colonies africaines, un pionnier du combat pour l'égalité des droits au sein de l'Afrique occidentale française. Et en même temps, citoyen français de la République, il est nommé par Clémenceau à la fin de la guerre pour accomplir le plus grand recrutement des tirailleurs de l'histoire.
Tous ceux qui ont eu à travailler sur Blaise Diagne ont été unanimes à dire que Blaise Diagne avait de la sympathie pour tous les Noirs qui étaient victimes de l'injustice et avait tendance à se présenter comme le défenseur naturel de ces personnes.
Mais qui est Blaise Diagne? C'est ce que nous essayons de comprendre au fil de notre enquête. Après Dakar et Saint-Louis, je dois me rendre à Touba, la ville créée par le fondateur de la confrérie Mouride, Amadou Bamba. Touba, la capitale de la confrérie Mouride, fondée en 1888 par Cheikh Amadou Bamba, initiateur d'une voie mystique musulmane. C'est la ville des marabouts et ce sont eux qui ont autorité sur le développement urbanistique de la ville sainte. Je voudrais connaître la version enseignée par les Mourides de la rencontre entre Blaise Diagne et Amadou Bamba, condamné à l'exil par le colonisateur français en 1895.
Bamba Diarak Noun Yalla جهرا في البحر والبحر وانا على الدهرا شيطان بان خك بكنا الدنيا كلين فتال دانيل غنون يبون يا بامبا جارك نيوم.
Serigne Moussaka écrivait ses poèmes en Wolof pour retracer l'épopée du cher Amadou Bamba, dont il est l'un des premiers disciples. Des poèmes devenus très populaires. J'en discute avec Sam Bousseau, inspecteur de l'éducation nationale sénégalaise, chargé de l'enseignement en arabe. Nous sommes assis au pied d'une immense photographie du seul portrait connu du cher Amadou Bamba. Nous sommes tout près de l'immense mosquée de Touba.
Cette rencontre est très célèbre grâce à Serigne Moussaka, qui est un poète dont ses poèmes sont chantés par beaucoup de chanteurs ici. Donc cette rencontre entre dans l'histoire populaire donc de Cheikh Amadou Bamba.
Cette rencontre m'avait déjà été racontée par Ibader Thiam à Dakar.
Quand il a découvert le Cheikh Amadou Bamba, peut-être qu'il en a parlé en des termes que les autorités n'ont pas appréciés. Peut-être qu'il lui a donné du papier ou de l'encre parce qu'il avait besoin de papier et d'encre pour écrire ses qasidas. Toujours est-il qu'il a eu vis-à-vis du Cheikh Amadou Bamba une attitude extrêmement positive. Et il paraît que le Cheikh Amadou Bamba était tellement satisfait de lui qu'il lui a dit « Est-ce que tu as quelque chose dont tu as vraiment envie ?» Il lui a dit « Oui ». Il lui a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Blaise lui a dit « Le Sénégal est entre les mains des métis et des mulâtres. Il me semble important que le Sénégal revienne entre les mains des Noirs. Et je souhaiterais que cela puisse se faire. » Le Cheikh Amadou Bamba était un peu déçu parce qu'il pensait qu'il allait lui demander autre chose. Mais il paraît qu'il lui a dit « Retourne-toi ». Il s'est retourné, il lui a dit « Fais quelques pas ». Il a fait quelques pas et ensuite il lui a dit « Bon, ça va. Je te remercie. » C'est ce que la tradition orale mouride a conservé.
Depuis, vous avez eu l'occasion de faire des recherches, le temps a passé. Est-ce qu'aujourd'hui, cette version de l'histoire des Mourides, de cette rencontre entre Cheikh Amadou Bamba et puis Blaise Diagne, à l'époque commissaire des douanes, est-ce qu'aujourd'hui, à la lumière de vos connaissances scientifiques de l'histoire des Mourides, cela vous semble une rencontre probable?
Oui.
Sam Bousseau.
Probable, parce que quand on lit, par exemple, la vie de Blaise Diagne, on voit qu'il était affecté comme douanier et les dates données correspondent aux mêmes dates de l'exil de Cheikh Amadou Bamba au Gabon. Les dates correspondent. Et aussi, on sait de Cheikh Moussaka, il était un chercheur aussi. Ses écrits sont considérés comme des sources aussi de l'histoire de la Mouridère.
Alors parlons justement de l'élection de Blaise Diagne. Pour les Mourides, pour Cheikh Amadou Bamba, que représente l'élection du premier Africain à la députation au Parlement français? Sam Bousseau.
Il faut comprendre que même si Cheikh Amadou Bamba ne s'intéressait pas à la politique, mais il y a une communauté mouride qui écoute Cheikh Amadou Bamba. Si Cheikh Amadou Bamba s'était prononcé contre Blaise Diagne, donc on peut dire qu'il n'aurait pas été élu. La communauté mouride peut interpréter la rencontre de Blaise Diagne avec Chiamoun Bambo au Gabon comme un acte qui le rapproche de cette communauté.
Les chefs maurites avaient pour Blaise Diagne une certaine sympathie et ils l'ont même soutenu. Cheikh Ibra Fall, qui est le bras droit de Cheikh Amadou Bamba et qui est le guide de la communauté Baïfal, aurait donné à Blaise Diagne une somme de 6 000 francs de l'époque. 6 000 francs de 1914, c'est une somme considérable qui lui a permis de tenir campagne, de se déplacer dans tout le Sénégal, dans toutes les villes, dans toutes les communes où auraient existé des bureaux de vote. Et ça a été déterminant dans la victoire qui a été remportée. Parce que les gens s'étaient souvenus des prières que le Cheikh Amadou Bamba avait faites pour lui au Gabon. Et puis ensuite, quand il est venu, la politique qu'il a eu à suivre a consisté à faire croire aux gens également qu'il allait certainement agir pour que les contraintes qui pesaient sur le Cheikh Amadou Bamba puissent être levées. C'est une histoire extrêmement passionnante et c'est la conjugaison de ces différentes forces qui a permis à Blaise Diagne de remporter la victoire. C'est la raison pour laquelle je parle de révolution, parce que ce qui s'est passé en 1914, c'est quelque chose qui dépasse tout ce que les gens avaient prévu.
Blaise Diagne a donc réussi à accumuler les soutiens de la majorité des groupes d'influence d'un Sénégal fraîchement colonisé. Il y a donc le soutien du cher Amadou Bamba, le leader des Mourides, mais aussi celui des francs-maçons, de la communauté Lébou, du parti Jeune Sénégal, des Métis de Saint-Louis et bien sûr de son fidèle ami Galando Diouf. Alors, qui est Galando Diouf, Zénaïde Romanex, puisque les photographies qui ont nourri notre enquête proviennent toutes du fonds Galando Diouf et c'est vous qui en êtes la conservatrice aux Archives nationales.
Alors, Galando Diouf, c'est un personnage assez intéressant, pas très connu, mais très intéressant. Il est né en 1875 à Saint-Louis du Sénégal et il va s'illustrer très rapidement, au même titre que Blaise Diagne, comme un défenseur des droits des Africains. Il sera en particulier le premier élu noir africain en tant que représentant de la commune de Rufisque en 1909 au Conseil général de Saint-Louis.
Donc c'est le premier maire noir de l'AOF, le maire de Rufisque.
Voilà, c'est ça, premier élu noir, oui. Alors qu'avant c'était des métis ou des blancs.
Et lorsque Blaise Diagne, élu député en 1914, est nommé par Clémenceau commissaire de la République pour recruter 50 000 tirailleurs, il s'entoure justement de personnalités africaines de renom, comme Galando Diouf. Mais quel est son rôle exactement ?
Galando Diouf, en tant que Sénégalais, a joué le rôle de lieutenant politique de Diagne, essentiellement pour les missions qu'il a effectuées au Sénégal, donc au tout début de la mission de recrutement, au mois de février et début mars 1918. Et oui, il faut bien comprendre que cette mission de Diagne, qu'on appelle mission de recrutement, en fait, était d'abord une mission de propagande politique. Et que le recrutement s'effectuait après le passage de Diagne. Et pour cette mission de propagande politique, Diagne a utilisé des intermédiaires qu'il envoyait avant de se déplacer. Et donc Galando Diouf a joué ce rôle d'intermédiaire au Sénégal. C'est-à-dire qu'il menait les premières palabres avec les chefs coutumiers, les autorités religieuses. Et ensuite, une fois que le terrain était bien préparé, Diagne arrivait et menait les palabres plus officielles et récoltait en fait un petit peu le fruit du travail de ses lieutenants politiques.
Ce recrutement des tirailleurs est un formidable succès pour Blaise Diagne. Auréolé de son prestige de premier député africain, défenseur des soldats noirs dans les tranchées, il obtient pacifiquement l'engagement de 77 000 soldats quand Georges Clémenceau lui en demandait 50 000. D'où ma question à son biographe, Ibader Thiam. Blaise Diagne a-t-il remobilisé les soutiens qu'il avait obtenus pour son élection de député ?
Il ne fait pas de doute que Blaise Diagne a remobilisé certains des soutiens qu'il avait obtenus pendant la campagne électorale de 1914. C'est-à-dire les chefs religieux, c'est-à-dire les chefs traditionnels, c'est-à-dire le milieu du Parti Jeune Sénégal, c'est-à-dire tous ceux qui avaient soutenu sa candidature.
Et en ce qui concerne les Mourides, justement, le responsable de la communication du Grand Magal rencontré à Touba m'a donné des chiffres. Cheikh Abdou Halmbaké s'exprime sur l'attitude du cher Amadou Bamba face à ce recrutement des tirailleurs mené par Blaise Diagne.
Là, son fils le raconte dans un de ses livres, qui s'appelle Cheikh Mohamed Bachir. Il a dit que quand ils sont venus solliciter donc le cheikh, qui était d'un désintéressement total vis-à-vis de, en tout cas de tous ces problèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils sont venus le voir, mais lui ne s'occupe pas de ces questions. Il leur dit, allez discuter avec ces dignitaires-là.
Qu'est-ce que la discussion a donné comme résultat?
Ben, le résultat est là. Donc on a envoyé près de 1000 et 1200 mourides qui sont partis faire la guerre. C'est ça le résultat donc, de la discussion. Donc ça veut dire que Blaise Diagne a réussi peut-être à convaincre ses interlocuteurs à s'engager dans la guerre.
Et je trouve très intéressant ce que vous avez souligné, cher Abdouahad Mbaké. Vous avez souligné ce moment exceptionnel et très certainement surprenant, voire très impressionnant, quand les populations appelées à l'époque indigènes voient arriver donc cette colonne coloniale pour le recrutement et donc voient en tête de cette colonne, coiffée de son casque colonial et habillée de blanc, ceinturée des trois couleurs bleu, blanc, rouge, un noir. Est-ce qu'on peut essayer d'imaginer le choc visuel que ça représente à l'époque?
Ça devait être, disons, très impressionnant pour ce qu'on appelle les indigènes. Hein. Donc c'est l'appellation des colonisateurs. Et là, peut-être ce qu'il faut souligner, c'est que Blaise Diagne a réussi à matérialiser un vœu quand même du colonisateur pendant très longtemps. Parce que le colonisateur, quand ils ont conquis l'Afrique, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas administrer directement. Ça, ils le savaient. Donc ils ont essayé de passer par les chefs locaux. Et là également, Blaise Diagne, disons, a réussi quand même la prouesse d'être, disons, un intermédiaire efficace par sa connaissance du terrain, par son leadership. Il était également plus légitime que ces gens-là, puisque lui, il a gagné des élections. Ça aussi, je pense, c'est un aspect important. Il avait aussi un autre atout. Ses fils de chefs dirigeaient des cercles, dirigeaient des cantons, avait des relations heurtées avec les populations locales, notamment pour le paiement des impôts. Ça on le connaît. Hein. Donc vraiment, il faisait subir donc beaucoup de contraintes, beaucoup de brimades à ces populations-là. Et Blaise Diagne, lui, était, disons, placé un peu en hauteur. Il n'était pas en contact direct avec ces populations-là. Donc ces populations étaient plus enclines à reconnaître le leadership de Blaise Diagne, sa légitimité donc due à des élections gagnées, que le leadership donc de ces chefs-là, qui les brimait en tout cas du matin au soir. Donc c'était ça un peu la force de Blaise Diagne. Et Blaise a eu le fleur, je dirais donc, stratégie, en tout cas politique, d'être cet intermédiaire-là. Et c'est de là quand même qu'est partie sa véritable ascension, hein, dans la société donc française. Puisqu'après, il était l'unique interlocuteur des Français en Afrique. Vous savez, Blaise, c'était quelqu'un de très intégré, hein, au sens français du terme. Donc je pense que c'était quelqu'un de très intégré. Lui, je ne crois pas qu'il était mu par les intérêts de l'Afrique ou du Sénégal. Je ne le pense pas. Hein. Donc je crois qu'il était mu par sa carrière politique, qu'il a mené également très, 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 très loin. Puisque si à l'époque, on est allé jusqu'à, en tout cas, accuser, entre guillemets, hein, donc, un Africain et noir de vouloir être président de la République française. Ça veut dire que c'est quelqu'un de très habile, c'est quelqu'un qui a su utiliser donc, le système pour tirer son épingle du jeu. Hein. Moi, je le vois comme quelqu'un de très habile sur le plan politique, un très donc, grand stratège, donc vraiment qui a reçu une carrière, je dirais, formidable. Et lui aussi, quand même, c'était ça son objectif. Hein? C'est pour ça également qu'il est décrié par certains. Il a utilisé les tirailleurs, il a utilisé l'Afrique, il a usé de ses relations pour convaincre nos chefs religieux, pour convaincre les chefs coutumiers, pour convaincre en tout cas tous ceux qui avaient un aura en Afrique de donner leur fils. Maintenant, la manière dont ils s'y prenaient, est-ce que c'est la meilleure? Ça, l'histoire jugera. Ou bien est en train de juger. Mais à l'époque aussi, il faut dire que l'Afrique, c'était la France. Hein? Donc forcément. Et peut-être dans sa tête également, quand il défend les intérêts donc, des Français, il devait se dire que je défends également les intérêts de l'Afrique. Parce que c'est un même unique pays.
Le professeur Ibader Thiam, quant à lui, revoit le chiffre à la baisse, mais il confirme le soutien des chefs religieux mourides à Blaise Diagne.
Voilà, des chefs religieux extrêmement puissants, déjà, les Mourides avaient accepté de donner 500 de leurs talibés qui avaient été recrutés dans l'armée. Cheikh Ibrahim Fall, qui était son bras droit, a donné son propre fils qui a été recruté. Eladj Malik Sy a donné son propre fils, n'est-ce pas, Ahmed Sy Malik, qui a été recruté. Tous les deux, Ahmed Sy Malik et Fallou Fall, le fils de Cheikh Ibrahim Fall, sont tombés à Nicosie. Et aujourd'hui, leur tombe se trouve là-bas, sur cette terre lointaine, etc. etc. Alors, entouré d'une équipe dans laquelle il y avait des officiers blancs qui étaient placés sous ses ordres, revêtus de tous les honneurs consulaires, accueillis dans les ambassades, n'est-ce pas, avec des officiers français gradés, décorés, etc., entourés par les éléments les plus significatifs du point de vue prestige de la nation africaine, c'est-à-dire les Mademba Sy, les Ngalandou Diouf, etc., parlant aux populations dans leur langue, en Wolof. Il est venu, non pas pour leur dire qu'il allait les faire recruter par la force, mais pour leur dire « La France est votre patrie. Vous appartenez aujourd'hui à la patrie française. Vous devez payer l'impôt du sang pour que la France ne tombe pas entre les mains de l'Allemagne. Nous n'avons pas le droit de laisser la France seule face à cette guerre. Les Allemands n'aiment pas les Noirs, etc. etc. »
Mais avant de partir aux quatre coins de l'Afrique occidentale française pour recruter de jeunes soldats africains, Blaise Diagne a débarqué à Dakar le 12 février 1918. Comment ça s'est passé ?
Blaise Diagne a pris le bateau pour venir, encadré par toute cette armada d'officiers, pour lui donner tous les honneurs consulaires. Il devait être accueilli par le gouverneur général, logé dans son palais, etc. Il a pris le bateau de Marseille à Dakar. Alors, quand il est arrivé, le gouverneur Card, qui avait remplacé Van Vollenhoven, n'a pas accepté de le recevoir. Vous voyez, Blaise Diagne, de son bateau, a télégraphié au ministère des colonies pour dire « S'il ne vient pas me recevoir avec tous les corps consultés, je ne descends pas. » Immédiatement, le ministère des colonies a sommé le gouverneur Card de se mobiliser avec tous les corps consultés et d'aller l'accueillir. Ils sont tous venus en catastrophe avec leurs véhicules et tout. Et quand ils sont arrivés, ils se sont placés en file indienne. Quand Blaise Diagne est descendu, il n'a pas voulu leur serrer la main. Il les a dépassés en les toisant du regard. Et c'est quand il est arrivé au premier noir dans la file qu'il serre la main à ce noir. Ensuite, il avance à pas forcés vers la tête du cortège. Il s'installe dans la voiture du gouverneur, prend la tête du cortège. Le gouverneur général se met derrière lui, ainsi que les autres autorités du Sénégal, et il fonce vers le palais. Alors ça, évidemment, ça a fait à Dakar l'effet d'une bombe. Pour la première fois, un noir, n'est-ce pas, adopter de telles attitudes, passer devant les Blancs, était suivi par le gouverneur général comme s'il était son aide-de-camp, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Rien que ça, ça lui avait donné un prestige considérable. Mais il avait également négocié avec le gouvernement français. Et cela est important parce que nous sommes dans un contexte où le système colonial triomphe. Mais il dit, un, vous allez accorder au Sénégal, aux Africains, la possibilité de disposer d'une école d'agriculture, d'une école d'élevage, d'une école de formation de médecine. Vous allez leur donner à certains la citoyenneté française. Vous allez les équiper de sanatoriums, dont le premier sera conçu à Dakar et aura 200 lits. Vous allez réformer l'indigénat. Vous allez donner des bourses à leurs enfants, etc. etc. Il a sorti une batterie de revendications que l'administration coloniale a acceptées. Et ça, c'est important parce que pour la première fois, la colonisation, ce n'était plus un acte unilatéral de l'autorité française qui décidait et les populations étaient obligées d'accepter. C'était la première fois qu'une négociation s'établissait entre l'autorité coloniale et les colonisés et on parvenait à un accord. Ce qui était quand même un pas en avant considérable et qui marque aussi une rupture par rapport à tout ce que nous avions connu dans le passé. Là aussi, c'est une véritable révolution.
La puissance assumée de Blaise Diagne, premier député africain au Parlement français, nommé par Clémenceau, commissaire de la République, est révélée par les précieuses photographies des albums Galandou Diouf, dont l'archiviste Zénaïde Romanex a la charge.
ce qui saute aux yeux déjà, c'est leur bon état de conservation.
Elles ont un siècle, ces photos.
Les photos qui ont un siècle aujourd'hui, si on peut dire, sont dans un état de conservation quasiment parfait. Et puis c'est le choc des images aussi, de voir la mise en scène d'une certaine propagande coloniale, mais en même temps de voir que c'est un noir, Blaise Diagne, qui est au centre vraiment de ces photos, entouré d'un aréopage de blancs essentiellement, puisque tout le personnel colonial, les gouverneurs, etc., sont blancs autour de lui, mais c'est lui qui est au centre, c'est lui qui décide.
Qu'est-ce qu'on voit sur ces photographies? Alors effectivement, on voit la mise en scène et la puissance de ce commissaire noir de la République. Qu'est-ce qu'on voit d'autre?
On voit aussi un état instantané de la société africaine, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais de la situation des territoires africains à une époque où la colonisation est encore assez récente. Et on voit les danses traditionnelles, on voit les tam-tams, et puis on voit aussi les palabres avec les différents chefs traditionnels, qu'ils soient religieux ou que ce soit les chefs coutumiers. Et puis on voit aussi les monuments de l'autorité coloniale, palais du gouverneur, ou bien les monuments de la société africaine.
Mais en même temps, ces photos nous révèlent quelque chose qui est très frappant. C'est, disons, l'arrogance de l'administration coloniale, d'une administration coloniale qui commence à prendre une certaine sûreté d'elle-même, confiance en elle-même, qui se trouve en terrain conquis. On est frappé par l'art avec lequel le pouvoir se donne à voir.
L'art avec lequel le pouvoir se donne à voir. Quelle belle définition de la propagande donnée par le professeur Ibrahima Tioub, recteur de l'université Charonta Diop. De retour à Dakar, je me suis arrêtée à l'UQAD pour lui montrer le trésor d'archives que constituent les photos des albums de Galandou Diouf.
On est également frappé par la verticalité des relations entre les sujets, la chefferie et l'administration coloniale. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps une mise en scène du succès de Blaise Diagne à mobiliser les sujets coloniaux et surtout la forte présence de la France avec tout le temps les éléments symboliques de la domination, la tenue de l'administration coloniale, des médailles, des képis ou du casque colonial, mais également les écharpes tricolores, le drapeau français qui indique tout le temps cette très forte présence, mais également la prestance de la chefferie locale intégrée à la chaîne de commandement de l'administration coloniale. À travers ces photos, on observe dans les photos toujours cette distance entre la foule des futurs recrues d'un côté, toujours derrière ou toujours en position assise, à terre ou nue, et la posture haut placée de l'administration coloniale ou de la chefferie indigène. Cette distance est très claire. On le voit également sur la mosquée de Djenné, une très belle photo, mais surtout, je disais tout à l'heure, une certaine arrogance, parce qu'on voit les représentants de l'administration coloniale au sommet du minaret qui posent pour la photo et au-dessus d'eux plantés sur le minaret, le drapeau français qui montre toute la violence et l'arrogance de la domination jusqu'à la maîtrise de lieux symboliques aussi forts que la mosquée. Et on le voit partout, on mobilise une foule très disciplinée, telle qu'on le voit dans les images, mais sous le regard vigilant de l'administration coloniale et de la chefferie indigène. Et la mise en scène destinée, je crois, à l'opinion publique métropolitaine et surtout à l'administration métropolitaine est vraiment bien réussie.
Ainsi s'achève le premier épisode de notre documentaire Blaise Diagne, une légende franco-africaine, signé Valérie Nivelon, avec Elliot Bourrel, Philippine Lebré et la complicité de Zénaïde Romanex et Jean-Pierre Batte, nos conseillers scientifiques. Une édition de La Marche du Monde, labellisée Mission du Centenaire, en partenariat avec les Archives nationales françaises. Et pour en savoir plus, je vous invite à découvrir notre long format numérique 1918, Mission Blaise Diagne, c'est sur RFI.fr. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour la suite. Et en attendant, écrivez-nous sur marche.monde@RFI.fr. Exprimez-vous sur notre page Facebook, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.